Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici à nouveau ensemble ce soir pour la suite du roman de Jean Giono, Regain. Alphonsine est revenue avec une grosse miche de pain. Elle coupe le pain avec un grand couteau qui est comme une serpe. Elle s'est penchée sur la miche. Elle la tient entre ses seins et son ventre et elle la coupe doucement sans faire de miettes. Panture le regarde le bon pain, gros et solide, le pain des champs, le pain de la farine faite au mortier de marbre, le pain et de sa mie qui est rousse, on tire parfois une longue paille droite et étincelante comme un rayon de soleil. D'un coup, il voit ce qu'il va faire, ce qu'il va refaire, ce qu'il a commencé en venant ici déjà. Il comprend cette inquiétude qu'ils ont eue, cette ombre dans Arsul, belle à l'ordinaire comme de l'eau. Ça passera. C'est sûr maintenant, il l'a compris. Ça passera le jour où on posera sur la table là-bas, à Aubignane, dans la dernière maison, la miche de pain chaude et lourde, le pain qu'ils auront fait eux-mêmes, eux trois, lui, Arsul et la terre. Et d'un coup, comme Alphonsine se tourne et qu'elle emporte le pain, il a un élan. Alphonsine ? Il en a tout de suite un peu honte, maintenant qu'elle est revenue avec son pain. Tu sais pas qu'il dit ? Je voudrais te demander quelque chose. Je peux pas en payant, mais je te le revaudrai. Donne-moi une tranche de ce pain. C'est pas pour moi, il ajoute, parce qu'il voit que déjà elle le tend et que l'amoureux va dire : apporte aussi les olives. Non, c'est pas pour moi. Je vais te compter, puisqu'aussi bien ça se saura et puisqu'aussi bien c'est bien, somme toute. J'ai une femme là-bas, avec moi, et ça lui fera plaisir. Prends le tout alors, dit Alphonsine. De voir qu'on lui donne tout, ça lui fait douleur. Ça lui fait cligner les yeux comme s'il mâchait du laurier. Je te le revaudrai. T'as qu'à faire ça si tu veux qu'on se fâche. Il n'a pas voulu partager leurs 4 heures et manger à la table. Je dois aller encore jusqu'à chez Jasmin. Mais il a demandé qu'on lui donne tout de suite 20 kilos de blé de semence pour emporter avec lui, pour les faire voir à Arsul ce soir, pour qu'elle comprenne que c'est parti maintenant, que c'est en train. Et il a repris son chemin avec la miche sous le bras et le sac sur l'épaule. La longue Béline est dans le clos à compter ses canards. Elle est maigre comme un cyprès et presque aussi grande. Seulement, elle a un caraco bleu du ciel. Ici, c'est déjà plus le même pays. C'est sur un fond, l'eau suinte. Il y a un beau pré et des saules, il y a un verger, il y a un énorme bouleau qui devient comme l'écume dès que le vent se couche. Il y a une fontaine, il y a une bonne barrière bien solide qui entoure tout ça. C'est de l'arbre et de l'herbe gonflée d'eau à en veux-tu, en voilà. Ponturle s'approche de la barrière. Hé, Béline ! Elle tourne vers lui sa longue figure de cheval. « Tu me reconnais ?»«
Oui. »
Elle ne fait pas de geste vers le loquet de la porte. Elle prend seulement tous ses canards sous la protection de ses yeux. Ça se comprend vite, ça.
Il dit « Je voudrais voir le père Gobert.
Il est là-bas. » Elle montre la maison. Elle n'ajoute rien. Elle ramasse un gros escargot. Elle appelle un canard qui a l'air de naviguer par mauvais temps sur le pré. Ça va bien. Ponturle attend un moment, puis se décide pour la maison. Le père Gobert est près du poêle. Il est assis sur une chaise à dossier droit. Ses deux mains sont appuyées sur sa canne, sa tête est appuyée sur ses deux mains. Il a fait « Oh !» quand il a vu Ponturle. Puis il a essayé de relever la tête et il y a mis un moment. Enfin, il y est parvenu. Ponturle rit et lui tend la main. « Oh, père Gobert, oh, depuis le temps !»«
Et alors, ça se fait bien, là, autour du poêle ?»«
Ah, monstre de nature, vous l'avez trouvé, le bon travail, vous !» Mais les deux mains de Gobert restent posées sur la canne. Elles tremblent. Il tourne à grand effort sa tête et lève les yeux jusqu'aux yeux de Ponturle.
Prends-la, toi, ma main, là-dessus. Prends-la, ça me fera plaisir. Moi, je peux plus.
Il a posé d'un coup le sac et la miche et il s'est précipité. Il l'a prise, cette main qui est comme du linge mouillé entre ses bonnes mains solides.
Et alors, Gobert, et alors, non, comment ?
Elles sont molles et mortes, et les bras sont morts. Et le Ponturle touche ça, et c'est comme des cordes sans vie, et dans les yeux de Gobert, il y a le regard de la bête prise au piège, et maintenant, de plus près, il sent l'urine.
Et alors, oui, tu vois, c'est comme ça. Mais ça vous a pris quand ?
Un matin ? Quelque chose de dénoué sous mes reins. La Béline a dit
« C'est des manières, essayez. »
J'ai essayé. Rien à faire, c'était du bon. Ponturle est toujours là à tenir les mains mortes de Gobert. Il est là, penché sur lui, à le regarder dans les yeux. Il voudrait donner un peu de force à ses mains.
Et Jasmin, qu'est-ce qu'il a dit ?
Rien. Ponturle n'en peut pas revenir de cette force disparue, de cet homme sans cesse en travail et qui est là comme une pierre. Gobert, le premier, s'est repris.
« Et alors ? Comment ça va que tu es venu te perdre jusqu'ici ?»
Ponturle n'ose plus dire, mais c'est une chose qu'il a tant désirée. Il y a tant pensé à cette charrue tout le jour.
« Voilà. Je suis venu... J'étais venu pour vous voir et puis je m'étais dit peut-être ça lui fera plaisir de reprendre un peu son métier. Je ne savais pas, vous comprenez, alors j'étais venu pour vous dire « Faites-moi une charrue ». Mais...
Oh, bien sûr. Un moment, on n'entend plus que la pendule qui compte des grains. Le soleil a réussi à passer sous le verger. Un rayon traverse la vitre et se casse dans un seau d'eau.
Ça ne te semble guère, toi, dit Gobert. Tu es plutôt chasseur. Il te vaudrait mieux un sabre.
La chasse, c'est trop un jour bon, un jour mauvais. Du bricolage, tout bien pesé. Et puis, c'est jamais que de la viande. J'ai trouvé une terre de l'autre côté de la butte. Vous savez, ça a l'air profond et bien gras. Il m'a pris l'envie d'y faire du blé.
Bah, c'est drôle que ça t'ait pris juste maintenant.
C'est que je ne suis plus seul. J'ai une femme. Un ménage, ça ne peut pas vivre de chasse. Depuis qu'elle est là, j'ai besoin de pain et elle aussi. Alors,
c'est naturel et c'est bon signe.
« Ah, mais qu'est-ce qu'il y a, père Gobert ? Vous pleurez ? On vous a fait quelque chose ? C'est la Béline, dites. Vous voulez que j'en parle à Jasmin ? Dites, qu'est-ce que vous avez ? » Si Gobert avait eu les mains libres, il les aurait cachées, ces trois larmes qui ont débordé de ses yeux. Mais ses mains sont clouées sur la canne et le visage ne peut pas se cacher. Et là, la tête droite, il pleure avec des yeux éperdus. Et au bout d'un moment que Panturle n'osait plus rien dire, Gobert a reniflé comme un petit enfant. « Non, c'est pas la Béline. Ça a été plus fort que moi. C'est parce que je vois que la terre d'Aubignan va repartir. L'envie du pain, la femme, c'est ça, c'est bon signe. Je connais ça, ça ne trompe pas. Ça va repartir de bel élan et ça redeviendra de la terre à homme. Seulement, qui sera là-haut dans ma forge ? Ah ça, Gobert, c'est pas des choses pour la réflexion des vieux. Si c'est de ça que tu pleures, tu savais bien qu'un jour il faudrait débarrasser le plancher pour un autre. C'est le sort. La seule chose qui doit tourner le regret, c'est que celui qui viendra ne saura pas faire les charrues comme toi. Toi maintenant, tu as gagné tes galons. Tu as assez pétri le fer. Ta part, c'est le verger et l'ombre et la maison de ton fils. Tu me dis tu ? Maintenant, comme avant ? Oui, pourquoi ? Je ne sais pas. Mettons que tu ne le saches pas, mais ça montre que tu as quand même compris pourquoi j'ai pleuré. Ma part, c'est là, dans ma chaise, comme un épouvantail de figuier à ne pas pouvoir bouger un doigt pour chasser les mouches. Et quand je suis à un endroit où je gêne parce qu'on veut faire la cuisine ou parce qu'on veut balayer, Jasmin prend la chaise d'un côté, Béline prend la chaise de l'autre et on me porte comme un meuble. Ah, les premiers temps que j'étais ici, oui, ma part, c'était l'ombre et le verger, et la maison de mon fils et le tout petiot. J'y apprenais à faire parler l'épi en le tenant sous le pot de fleurs. J'y faisais des tours, c'était du rire. Maintenant, c'est la punition. J'aurais pas dû quitter le village. La mamèche ? Elle est partie un beau soir, j'ai plus su. Oui, eh ben, c'est quelque chose qui a taillé le vieux bois, ça va repartir. Et là, ils sont restés un bon moment, tranquilles, à regarder le fond de leurs pensées, puis Gobert a dit « Panturle, je te la ferai, cette charrue, où ça sera presque pareil. Je veux que ça soit une des miennes qui commence. Écoute, tu vas voir. Regarde un peu, d'abord, si la Béline est toujours au verger. Oui, elle est au fond, là-bas, vers les pruniers. Ça va bien. Passe le manche du balai sous l'armoire, là. Tu sens quelque chose de dur. Tire. C'est un soc. »
Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh. Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh. On ne pleure plus, paraît-il. On avale tout, c'est facile. On ne dit plus rien lorsqu'on vous crache dessus. On reste serein, la colère, c'est mal vu. On est poli, poli. On tend son cul. Merci, merci. Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh, oh. Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh, oh. On ne s'aime plus, paraît-il. On dit que l'amour est fragile. On est très moderne, on laisse sa liberté. Mais on fait les poches aussitôt le dos tourné. On est copain, copain. On ne se raconte rien, plus rien. Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh. Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh. On connaît tout par le journal, mais les mots ça ne fait pas mal. On est toujours plus ému par ce qui est loin. Mais on oublie la détresse de son voisin. On est bistrot. On ne se connaît pas trop, pas trop. Je cherche un mur pour pleurer. Je cherche un mur pour pleurer. On mélange les accidents, les princesses et leurs prétendants. On ne dit plus rien lorsque des enfants ont faim. Mais on ouvre sa bourse pour sauver des chiens. On est toutou, toutou. On a bon cœur. C'est tout, c'est tout. Je cherche un mur pour pleurer. Je cherche un mur pour pleurer. On ne pleure plus, paraît-il. On rigole et c'est plus facile. On n'écoute plus les poètes ou les errants. On leur dit taisez-vous, vous n'êtes pas marrant. On est télé, télé. On est si fatigué de penser. Je cherche un mur pour pleurer. Je cherche un mur pour pleurer. On va à la messe au caté, ou bien on bouffe du curé. Mais on chante en chœur, il est né le divin enfant. On va tous ensemble au muguet quand il est blanc. On est païen, païen. Dieu reconnaîtra les siens, c'est bien. Je cherche un mur pour pleurer. Je cherche un mur pour pleurer. On est toujours comme on n'est pas. Un jour c'est triste, un jour ça va. On essaye bien, mais on n'a jamais le temps. On croit tenir la fleur et on meurt mécontent. On est paumé, paumé. Si on pouvait s'aimer, s'aimer, être ensemble pour pleurer. Avoir le temps de pleurer.
Lectures en liberté. Denis Flagel.
Regain de Jean Giono. Suite. C'est un soc. Un soc nu comme un couteau, un soc têtu, aiguisé, arrogant, avec le flanc creux des bêtes qui courent à travers la colline, une belle peau sans un pli, on le tiendrait en équilibre sur le poing. Gobert siffle entre ses dents. De garce, il est de la bonne race celui-là, oui, il est de bonne race, c'est le dernier, je l'ai encore fait à Aubignan, prends-le, mets-le dans ton sac. Si la Béline entrait, elle en ferait un malheur. Mets-le dans le sac, puis écoute, parce que le soc, c'est beaucoup, mais ça n'est pas tout. Tu iras à la forge, là-haut. Tu sais que les derniers temps, je couchais en bas, près de l'atelier. À cet endroit, il y a un placard, un grand placard. Tu l'ouvriras. Tiens, prends la clé, là, dans la poche de mon gilet. Prends la clé. Après, tu pourras la jeter, elle ne servira plus. Là, dans ce placard, tu trouveras un bois d'arrière tout prêt, tout fini, tout tordu dans les règles. Un bois de race aussi. Le bois qu'il faut pour ce soc. Tu monteras le soc avec les vis et les boulons qui sont aussi dans le placard pliés dans un morceau de journal. Maintenant, si c'est pour labourer, là où tu m'as dit, sur la pente, de derrière le village, là où c'est dur, il faudra tordre encore un peu le bois. Pas beaucoup, un peu, juste un peu tordu. Comme une cuillère à café, tu sais. Pour ça, tu mettras le bois à tremper 3 jours au trou du cyprès. 3 jours, pas plus. Et tords lentement, en pesant sur ta cuisse. Mais avant, essaye la charrue telle qu'elle est. J'aimerais mieux que tu ne la touches pas. Panturle regarde le beau soc. Non, il dit, j'ai pas envie de tout démolir. Tu dis que les boulons sont dans un papier. Je la laisserai telle qu'elle. Comme tu l'as faite, elle ira. S'il faut forcer un peu plus, je forcerai, mais je la laisserai telle que. Ce que je veux, c'est du blé. c'est faire pousser du blé sur toute la bosse de Chennevière. C'est mettre du blé dans Aubignane jusqu'au ras des maisons. C'est tout remplir avec du blé tant que la terre peut emporter. Gobert est immobile sur sa chaise, les mains mortes croisées sur la canne. Il fait effort de la tête. Elle peut emporter notre terre, crois-moi, elle peut emporter une grande épaisseur. De mon temps, c'était renommé. Le jour où un homme dur s'y mettra, alors, ce sera une bénédiction de blé. La Belline est entrée par la porte de derrière, elle a un canard sous le bras et elle lui caresse les plumes. Enfant, nous venons, enfant, nous tournons, elle dit. C'est la nuit quand Panturle est de retour. La porte est fermée. Il cogne du poing. Qui c'est ? Demande la voix d'Arsule. Moi. Elle ouvre. Je commençais à languir, tu sais. Il quitte son sac de blé sur la table. Regarde, il dit, regarde, le temps n'est pas perdu. Et puis, regarde, regarde ça. Il dresse vers le jour de l'âtre le beau soc nu comme un couteau. Oh, elle fait, ça c'est beau. On dirait un devant de barque. Ils sont allés chercher le blé. L'amoureux les attendait à Rennes-Porc. Les sacs étaient déchargés près de la fontaine. Tu vois, il dit à l'amoureux, ça, c'est ma femme. Et à Arsule, ça, tu vois, c'est un ami. Ah oui. Il faudra venir un jour à la maison, a dit l'amoureux. Ça fera plaisir à Alphonsine. Et il est reparti avec sa charrette. Il y avait 6 gros sacs de blé près de la fontaine. Panturle s'en est chargé un sur le dos. « Je vais et je reviens. Toi, tu gardes les sacs pendant. » Comme ça, jusqu'au dernier. Avec celui-là sur l'épaule, il a dit « On a gagné la journée, on revient par le plateau. J'en ai assez de monter, descendre. » Il y a eu, la nuit d'avant, une pluie brusque et lourde. Elle a écrasé le bois. Des feuilles sont tombées. L'os des branches nues perce la peau des feuillages jaunis. Sur le plateau, l'herbe est écrasée aussi. Elle est couchée en tourbillon dans tous les sens. « Nous sommes devant les portes de l'hiver, » dit Arsule. Elle suit Panturle. Ils sont sur le bord de ce plateau où elle a eu à la fois tant de peur et tant de chaleur d'amour. Elle y pense. Elle pense que c'est le vent qui a été son marieur. Sa vie n'a commencé que de là. Tout l'avant ne compte plus guère. Elle y pense, de temps en temps, comme on pense à du mal dont on s'est guéri. Et quand elle y pense, elle a tout aussitôt besoin de regarder Panturle. Elle vit avec tranquillité enfin. Et de la joie de toute espèce, on peut bien dire. C'est le plateau, où toute la nuit, la pluie a foulé l'herbe. Tout soudain, Panturle s'arrête et jette son sac à terre. De ses bras en croix, il barre le chemin et il tient Arsule derrière lui. « Reste là !» Il s'avance de 3 pas dans l'herbe et il regarde à ses pieds. Il a l'air de réfléchir. Il revient, charge le sac, prend Arsule par le bras et l'entraîne à travers les herbes d'un autre côté. Le restant du jour, il a été tout drôle et inquiet, il ne se décidait à rien. Il a mesuré le grain, mais on le voyait bien en pensant à autre chose. Puis il a tout lâché et il est parti. Il est monté au village. Il a pesé de l'épaule contre la porte à la maison de la Mamèche. La porte s'est étalée à plat sur le plancher et il est entré. Il a essayé de déplier les draps qui sont sur la table. C'est de la charpie. Entre les rats et les autres bêtes, ça les a bien arrangés, ces draps. Il est redescendu à la maison par les guérets de derrière et il a profité qu'Arsule allait à l'eau pour entrer vite. Vite, il a fureté, il s'est demandé où elle l'aimait. Enfin, à la C, il est venu à leur lit qui est fait. Il l'a défait d'un grand revers de main. Il a pris le drap dans lequel il se couche, lui et Arsule, et comme Arsule rentrait en bas dans la cuisine, il a sauté par la fenêtre avec le drap roulé sous son bras. Il est allé sur le plateau. Puis il est revenu avec quelque chose de plié dans le drap, un petit paquet comme un fagot de courtes branches bien sèches parce que sa teinte est quelque chose de rond dessus qui ne s'équilibre pas comme une courge d'eau et qui a tendance à glisser. Autour de ça, il a entortillé le drap en 4 ou 5 tours. Il est venu au puits communal. Et il a fallu qu'il pousse son grand corps à travers les épines avant d'attraper la margelle. Il a noué le paquet. Il a noué aussi 2 grosses pierres dans le paquet. Il a regardé en bas l'eau noire qui luit comme du fer neuf. Et puis il a jeté le paquet. Et il a regardé tant que tout n'a pas été mangé par l'eau. Il est resté un bon moment appuyé sur la margelle et il s'est dit à haute voix « Somme toute, c'est là qu'elle aurait voulu. » Le soir, il s'est mis sur la pierre de l'âtre et il s'est mis à parler. « Une d'ici qui aurait eu plaisir à nous voir ensemble. »« Qui ça ?» a demandé Arsule. « Une d'ici. » On disait la mamèche. Elle était tout le temps à me dire « Prends femme, prends !» Tant qu'elle avait dit « Et si tu veux, je vais te la chercher !» Tant qu'elle a dû partir pour y aller. À ça, Arsule n'avait que répondre sauf à tirer sa petite moue. « Tant qu'elle a dû partir pour y aller et qu'elle y est morte !» Après ça, il a fallu tout dire et le drap arraché du lit et tout. Arsule s'est assise à côté de lui et elle se serre contre Panturle parce que la mort, c'est quand on en parle une chose qui vous gèle en entier. Puis elle s'est mise à réfléchir. Sur le plateau, tu dis ? Oui. De son vivant ? Une toute noire avec des choses pas claires dans son geste ? Oui, fait Panturle étonné. Bon, je vais te dire. Alors c'est moi qu'elle est allée chercher. Si on est passé à Aubignan ce printemps, c'est qu'une chose nous a poussé vers ce pays, hors de notre route, avec de la peur. C'était elle qui se dressait dans les herbes. Elle m'a fait venir ici de force. Je ne regrette pas, mais c'est la vérité vraie. Elle a tout raconté par le menu à Panturle, tout, depuis le commencement jusqu'à la fin, et il a eu alors un petit sourire parce qu'il a compris l'enchaînement des choses. « Ça va bien. » Il a tourné la tête et il a regardé le blé mesuré. Pendant 3 jours, ça a été comme sur un navire, pas de répit, toujours la main sur quelque chose. Le premier jour, tout le temps, c'était des Arsule. Donne-moi le tournevis, Arsule. En fouillant, t'as jamais vu une boîte comme ça où il y avait des outils ? Et puis à la fin, vers le soir, il a crié « Arsule, viens voir !» Et voilà, devant la maison, dans l'herbe fraîche, posée sur le pré comme une sauterelle, il y avait la charrue toute prête. Avec ça, a fait Panturle. Le lendemain, on est allé brûler les herbes sur le terrain. Il a fallu surveiller que ça n'aille pas plus loin. Le jour d'après, la nuit d'après et jusqu'à l'aube, ça a presque été les bruits d'une ferme véritable. Et Panturle n'en a pas dormi. Il y avait le cheval en bas dans l'écurie. On l'avait mis à la place de Caroline. On l'entendait taper du pied, secouer la chaîne, se gratter aux ridelles et même hennir à la tremblade comme une trompette parce que c'était un cheval entier qui prenait l'odeur d'une chèvre pour l'odeur d'une jument. À force de regarder vers la fenêtre dans la chambre pleine de nuit, il a vu l'aube derrière les vitres. Elle s'est éclairée tout d'un coup. Elle est rose. Ça veut dire qu'il va faire beau. Panturle s'est levé et Arsule, qui semblait dormir le nez contre le mur, s'est tourné et a dit « Je vais aussi, je voudrais voir. » Attends un peu. Avec ce cheval follet, dès qu'il sent une femme près de lui, il fait l'andouille « Je vais l'atteler, tu viendras là-bas tout à l'heure. » Nous avons terminé pour ce soir, donc, la suite de ce roman de Jean Giono, Regain, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.